Vous écoutez Radio Grenouille, c'est pour l'heure qui vient Sirène Blabla, un rendez-vous autour de la création en espace public organisé en partenariat avec Lieu Public, Centre National de Création des Arts de la Rue. Un rendez-vous qui a lieu sur les ondes de la Grenouille et en public et en direct du Longchamp Palace sur le boulevard Longchamp. Un rendez-vous qui a lieu donc tous les premiers mercredis du mois de 18 à 19h. À chaque fois, nous abordons des thèmes liés à la création en espace public. Ce soir, nous allons parler à l'occasion de la sortie d'un livre il y a peu qui s'appelle Extérieur Danse, qui est paru aux éditions Entretemps dans la collection Carnet de rue. Nous allons parler de la danse en espace public, de la création chorégraphique pour les espaces publics, en compagnie de plusieurs invités. Alors, il y a Sylvie Clidière, qui est l'une des deux auteurs de ce livre Extérieur Danse. L'autre auteur est Alix Demorand. Sylvie Clidière est enseignante, écrivain et spécialiste des arts de la rue. Agnès Pelletier est avec nous également. Elle est chorégraphe, danseuse. Elle a fondé la compagnie Volubilis. Et elle travaille notamment sur les traductions en espéranto gestuel pour les déclarations du ministère des Affaires inutiles. On a pu en avoir un aperçu ce matin à midi lors de la sirène Bindidette sur la place de l'Opéra. Avec nous également pour parler de danse en espace public, Sylvie Gerbeau, qui est responsable du 3BIS-F, un lieu d'art contemporain à l'hôpital psychiatrique Montperrin à Aix-en-Provence. Yandine Amour est également avec nous. Elle est danseuse. Elle travaille pour plusieurs compagnies de rue, et notamment la compagnie Migrateur Transatlantique. Et enfin, Pierre Sauvageau, qui est directeur de lieu public, Centre National de Création des Arts de la Rue. Alors, pour commencer cette discussion, je vous propose de Sylvie Clidière de nous rappeler ce que vous faites très bien dans ce livre Extérieur Danse, les principaux repères historiques de la danse hors salle, on va dire ça comme ça, parce que aujourd'hui on assiste à un foisonnement de propositions chorégraphiques pour les espaces publics sous des formes tout à fait diverses. Ça semble même assez banal, mais c'est assez curieux de se rendre compte en commençant ce livre que les premières écritures chorégraphiques pour l'espace public, ça s'est passé au début du XXe siècle en lien avec des avant-gardes artistiques historiques.
Oui, on pourrait remonter beaucoup plus loin, hein, mais le livre, le volume du livre ne nous le permettait pas. On pourrait remonter aux légendes homériques, à Ariane exilée à Naxos qui reproduit la forme du labyrinthe, et ça donne naissance à ce qu'on a appelé la danse des crues. On pourrait parler des danses obscènes qui ponctuaient la fin des mystères, la gueule d'enfer au Moyen-Âge et qui étaient tout à fait réprouvées par l'Église. On pourrait parler de toutes sortes de choses. Mais nous avons choisi plutôt ce qui fonde les formes actuelles et qui correspond en gros... Voilà, ça va être un peu découpé au hachoir à légumes.
Hein. Oui, mais c'est juste pour poser quelques balises.
En gros, les avant-gardes du début du siècle, quelle qu'ait été leur suite, qu'il s'agisse du constructivisme, du futurisme, avaient en commun art plastique et danse à peu près simultanées sur le même plan, de vouloir faire de la ville et faire de l'espace extérieur le terrain de formes qui anticiperaient, qui donneraient une forme artistique à des espoirs de changements sociaux. Et c'était des moments de grandes utopies, de grandes illusions peut-être. Et là, les chorégraphes, comme les plasticiens, comme les gens de théâtre, à la fois cherchaient à mettre en mouvement les foules, et à se rapprocher des classes travailleuses, si vous voulez. Et donc, à trouver des formes qui renouvellent, qui rompent avec les académismes.
Et qui s'inscrivent dans des perspectives révolutionnaires.
Qui s'inscrivent dans des perspectives, au moins, de changement de société. Tout ça, évidemment, avec les changements de société qui ont eu lieu, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Union soviétique, etc., etc. En France, c'était un peu plus modéré. On disparu. Et puis, il y a eu un autre renouveau très, très important qui me semble peut-être pour aujourd'hui encore plus important parce qu'il ne s'est pas fourvoyé dans les danses de masse et les compromissions politiques. C'est les mouvements de rupture des années 60 et 70. Et là, on pourrait dire que les deux territoires d'origine sont à la fois et en liaison les États-Unis et le Japon. Les États-Unis avec Judson Church et ce que développe très bien Sally Bains dans Terre Psychore en basket, une façon d'aller expérimenter tous les lieux insolites. Ça peut être des danses verticales le long d'une paroi, ça peut être des danses en écho, comme l'a fait Trisha Brown, d'un toit à un autre de New York et d'une autre à l'autre bout de la planète, si vous voulez, au Japon. Ça peut être les danses transgressives des Jikata ou les admirables mouvements de corps qui véritablement dansent le lieu de quelqu'un comme Tanaka Mine. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que ces gens-là sont encore vivants. Et que, par exemple, les early works de Trisha Brown ont été repris à Chamarande, banlieue parisienne, enfin près des Tempes, c'est une grande banlieue. Que, par exemple, les danses d'Anna Halprin, les danses de nature, ont été aussi reprises que les uns et les autres transmettent leur forme d'écriture jusqu'à aujourd'hui. Donc là, je crois que c'est très, très important.
Mais là, quelles étaient les motivations des chorégraphes, là ? Pour ces chorégraphes-là, les premiers, ça s'inscrivait à un travail qui s'inscrivait dans une perspective révolutionnaire. Ceux-là, c'est un travail qui s'inscrit dans quelle perspective ? Quelles sont leurs motivations pour aller dans l'espace public ?
On pourrait dire que c'est une façon de décloisonner et de faire se rejoindre l'art et la vie. Et dans ce sens-là...
Oui, c'est toujours lié à des avant-gardes artistiques. Alors,
des avant-gardes artistiques, mais qui ne se considère pas comme avant-garde, dire comme en avance sur les autres, mais plutôt en rupture avec tous les enfermements et les académismes. Et donc, la danse contemporaine est née de là, vraiment. Mais c'est en effet lié à des mouvements artistiques comme Fluxus. C'est même lointainement lié au vagabondage, aux errances des situationnistes, par exemple. Par exemple, les cheminements dans le chemin de fer de Petite Ceinture qui ont été faits à Paris dans les années 60 ne se revendiquaient nullement de la danse, mais ils n'étaient pas si loin des marches de quelqu'un comme Christine Coirot. C'est-à-dire que c'est une façon à la fois de rompre avec les académismes et les enfermements et de mêler les genres, de dépasser les frontières. Et ça, on peut dire, en étant encore une fois très grossier, que ça anticipe les formes révoltées des années 68, et donc des années 70, et donc n'est pas si loin non plus de ce qui a fondé, sans que forcément il le revendique, les arts dits de rue, les arts d'espace public, les mêmes volontés de faire se rejoindre à la fois les disciplines, les lieux et les pratiques sont communs, sauf que ça ne se sait pas forcément et qu'on a des formes de ralentissement, de régression, puis tout d'un coup ça renaît, mais ça renaît de façon plus dispersée, plus individuelle. Grossièrement, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui, c'est très bien. Juste pour finir ce qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, là, on parlait des États-Unis, du Japon, tout ça. Bon, en la France, c'était plutôt timide. Et puis, il y a eu la nouvelle danse, c'est-à-dire au début des années 80, en même temps que les années langues et tout ça, où là, il y a eu toute une floraison de projets de chorégraphiques pour l'espace public.
Initiative plutôt que projet chorégraphique pour l'espace public. Parce que la nouvelle danse était aussi une forme de rupture, mais de révolte de petits noyaux qui sont devenus parfois des gens tout à fait connus, comme Boris Charmatz, qui sont à la tête de centres chorégraphiques bien renommés maintenant.
De Coufflet,
bien sûr. Larieux, c'est des figures très reconnaissables actuellement, Larieux dansait tranquillement au Palais Royal sous les fenêtres de Langues. Alors, il y avait à la fois une sorte d'institutionnalisation de la danse sur le modèle de la décentralisation théâtrale et une colère de jeunes groupes qui se revendiquaient comme auteurs et qui n'avaient pas envie d'entrer dans les cadres faits pour le théâtre de la décentralisation. Et donc, qui allaient, ici et là, faire des expériences dans la montagne, par exemple Boris Charmatz et Emmanuel Huyn, ou danser sous les fenêtres de Langues, ou inventer des événements comme le très fameux, on en a parlé beaucoup dans nos milieux, Danseurs tous en scène d'Odile Lazaguri, ou le Danse à Aix, qui lui a été lancé non pas par des danseurs, mais par une responsable culturelle, Ginette Escoffier, qui a demandé aux danseurs, y compris les plus académiques, d'aller à Aix, dans la ville d'Aix, dans cette ville tellement sage, pour habiter le lieu. Et là, par exemple, il y a eu aussi un moment qui est devenu presque un mythe, c'est le vol d'oiseau d'Odile Duboc. C'était en ce... Je ne sais plus. Je crois que c'était 75, mais je ne suis plus très sûre. 74 ou 75.
L'Aixoise a répondu.
Merci. Donc, c'était une façon de ne pas entrer dans des cadres qui commençaient à s'institutionnaliser et une façon... De jouer avec le paysage, ça n'a pas changé ça.
Et justement, alors comment s'étaient perçues ces initiatives chorégraphiques dans l'espace public par les cadres académiques de la danse
C'était un peu comme c'est demeuré, c'est-à-dire que c'était des initiatives qui n'apparaissaient pas comme des initiatives identifiable comme de la grande danse. Et je dois dire que, en effet, il y a maintenant un foisonnement de danse hors les murs, mais c'est tout nouveau qu'il y ait une forme de reconnaissance par les grandes structures dansantes. C'est encore un peu en dessous.
Sylvie, oui, prends plutôt ce micro-là, le mien, je ne le prête pas.
Non, je voulais témoigner par rapport à ça de l'intérieur, enfin pour participer de temps en temps de l'intérieur de l'institution, la façon dont sont vues et perçues les compagnies qui font de la danse de rue par la DRAC, par exemple. C'est-à-dire qu'elles ont d'entrée un point négatif à leur score.
Voilà. D'accord, encore aujourd'hui.
Oui.
Et comment ces initiatives... Ah, alors...
Non, c'est que la DRAC demande de faire des choix.
Oui, par exemple. En fait. Par exemple, c'est une façon de répondre, oui.
Voilà, on nous demande de faire des choix.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est de la danse, c'est du théâtre. Alors, ben, c'est les deux.
Oui, de rentrer dans les cases. Toujours voilà. La même histoire, enfin, il faut rentrer dans les cases.
Voilà.
Ouais. Les danseurs ne sont pas ça. Ouais.
Et alors, comment ces initiatives chorégraphiques étaient perçues par les arts de la rue, justement, en parcourant le livre, là, et je crois qu'au détour d'un paragraphe, j'ai cru comprendre que les arts de la rue considéraient la danse contemporaine comme un peu pédante, un peu savante.
Carrément prise de tête, oui. Carrément prise de tête, c'est-à-dire que jusqu'à il y a peu, et il faut saluer en ça le festival de Noisy-le-Sec, et plus récemment Chalon-sur-Saône, dans leur ensemble, et aussi Claude Guinard à Rennes, quelques-uns panachent leur programmation de rue avec de la danse, de préférence celle qui est la plus festive, celle qui est fait adresse au public, etc. Mais la danse contemporaine, plus austère, disons, plus minimale, est longtemps apparue, jusqu'à il y a très peu, comme pas pour notre public, comme si le public leur appartenait.
Est-ce que c'est particulier à la danse? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas pareil aussi pour les formes de spectacle de théâtre de rue, quoi? Où il y a plusieurs formes esthétiques, avec certaines qui sont programmées de façon plus difficile que d'autres. Voilà.
Il y a une image.
Moi, je pense que ça touche particulièrement la danse, cette réaction-là où la danse peut être compliquée à regarder tout d'un coup. C'est un peu, je crois, d'ailleurs, notre... ma quête par rapport à comment j'ai pu danser en salle et comment, à un moment donné, tu vas dans la rue et est-ce que c'est la même danse que tu proposes dans ces deux espaces? Non. Pour moi, non. Je suis radicale.
D'accord. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure sur ce qui a fait sens pour vous, Agnès Pelletier, d'aller un jour danser dans la rue. Mais Pierre Sauvageau, vous pouvez prendre le micro que tenait Sylvie Gerbeau jusqu'à maintenant. Donc, le public s'est intéressé à la danse en espace public il y a quelques années déjà, en mettant une collaboration quand même assez importante en place avec le Théâtre du Merlan, scène nationale. Ça s'appelait Pas à Pas, il y a eu deux éditions en 2005-2007. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, comment, si vous avez la même impression sur la façon dont ont été perçus par les arts de la rue la danse contemporaine, et ce qui vous a amené à mettre en place ce partenariat Pas à Pas avec le Merlan?
Oui, clairement, le milieu des arts de la rue regardait la danse dans l'espace public comme pas vraiment sérieux ou bien un peu ennuyeux. C'est vrai que moi, ça fait partie de mon projet de directeur à la direction du public, que la dimension chorégraphique, mais aussi la direction musicale, hein, par exemple, puisque moi-même étant compositeur, mais que c'était important que des formes, d'autres formes de spectacles vivants d'espace public puissent vraiment exister. Et ça a été un choix radical de lieu public depuis le début. Je crois que sur les 100-150 projets qu'on a soutenus depuis dizaines d'années, on peut bien penser qu'il y a bien 20% de projets chorégraphiques. Donc, vous parliez de Pas à Pas, mais toute une série de projets avec le sentiment que, d'une part, l'art chorégraphique était probablement celui qui, aujourd'hui, avait le plus à apporter à l'espace public, dans son dialogue à l'espace public, et de manière plus générale, que la période art de la rue, je vais très très vite, était une période qui était en cours d'achèvement, doucement, et que allait se développer une période d'art contemporain d'espace public. Les différences ne sont pas aussi nettes que ça, la frontière n'est pas aussi évidente, mais ça tient par exemple au fait que lieu public range doucement le terme art de la rue dans un placard. Comme, non pas qu'on en ait honte, parce qu'il y a il y a une histoire extraordinaire, mais parce que tout d'un coup c'est un peu cloisonnant, c'est un peu fermé.
Et que tout comme danse, d'ailleurs.
Oui, mais en tout cas, on viendra après sur la question de l'effacement des disciplines, éventuellement, parce que c'est vrai que les disciplines, on a une période où les disciplines ont tendance à se croiser. Mais en revanche, il y a quand même des disciplines, il y a des compétences. On ne s'improvise pas chorégraphe, on ne s'improvise pas compositeur. Ça demande un vrai travail. Mais en tout cas, l'art contemporain d'espace public se développe. C'est une nouvelle réponse. Tout à l'heure, vous posiez la question à Sylvie, je ne vais pas être long, mais poser la question de quand est-ce que la danse est sortie dehors. Mais on peut se poser la question, au contraire, quand est-ce que la danse est rentrée dedans? C'est relativement court dans l'histoire de l'art, le moment où tout d'un coup la danse devient un objet froid qu'on va à l'opéra s'asseoir, on regarde, on attend une heure, on a fait clap-clap à la fin. C'est très court dans l'histoire. Donc ces chorégraphes qui réinvestissent l'espace public, ils ne font somme toute que relier des fils qui ne sont pas très lointains. Sylvie parlait tout à l'heure de toute la dimension sociale, sociétale de la danse qu'il y avait dans toute une série de sociétés. Donc je crois que là, on saute très vite à... on revient en même temps à une espèce de nécessité de la présence des corps dans la ville.
Mais pourquoi, selon vous, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la danse qui a le plus de choses à apporter à l'espace public pour vous, hein?
Parce qu'elle renvoie à une question qui n'est pas directement celle de la danse, mais qui est celle du corps dans la ville. Ce qui n'est pas exactement la même discussion, parce que le corps dans la ville, c'est tous. C'est celui que vous et moi, on a quand on va prendre le métro, quand on se gare, etc. Mais que c'est difficile de vivre son corps dans la ville, et que par contre, l'art chorégraphique, évidemment, celui qui va donner une réponse artistique à une question qui est très commune à tout le monde, qui est... comment je vis mon corps dans un environnement urbain qui est un environnement pas facile, qui n'est pas vraiment prévu pour ça.
Et donc le corps dans la ville, c'était exactement la thématique de Pas à Pas.
C'était tout à fait la thématique de Pas à Pas, très intéressante, parce qu'elle croisait à la fois le réseau de lieux publics et celui du Merlan, avec des propositions conjointes. Donc justement, ça, moi, ça m'intéressait beaucoup qu'une structure art de la rue travaille avec une scène nationale, au contraire, qui, elle, travaille avec l'art contemporain en général, donc avec des très, très jolis croisements. Et c'est pas du tout qu'on ait arrêté cette manifestation. On va dire que cette manifestation va se retrouver dans tout ce qu'on travaille, et entre autres avec le Merlan, sur les propositions qu'on va développer dans les années qui viennent, et en particulier sur 2013.
Sylvie Clidière, oui.
Oui. Justement, je suis plus que d'accord avec ce que dit Pierre, parce que par rapport à la ville notamment, il n'y a pas que la ville, mais par rapport à la ville notamment, d'une part, la danse est peu verbale. Et donc, on n'a pas ce handicap du fait qu'on n'entend pas la parole. Aussi, que la relation du corps au lieu est quelque chose qui est particulièrement passionnant à observer et à travailler, même si c'est beaucoup plus inconfortable que de danser dans un cube blanc. Et ce qui est intéressant dans la relation entre lieu public et le Merlan, c'est que justement les lieux ont à chaque fois été choisis avec beaucoup de soin, de façon à ce que la danse donne à voir la ville et que la ville donne à voir la danse. J'en donnerai rapidement deux exemples, sinon je vais encore parler trop.
Ne vous inquiétez pas, on a le temps.
Le transport exceptionnel de la compagnie Beaugès, c'était en 2005 si je ne me trompe pas, était précisément sur le parvis de l'opéra. Et c'est un dialogue... c'est un duo entre un danseur et une pelleteuse. Et c'était un truc magnifique. Et c'était en même temps que se passaient les travaux du métro ou du tramway sur la Canebière. Et le duo est sous-tendu par la voix de la calasse. Et véritablement, sans mentir, on avait la sensation que la voix de la calasse venait de l'opéra et que la pelleteuse venait de la Canebière. C'est-à-dire que le duo cristallisait la réalité de la ville. Autre exemple, le transit d'Alice Almy, compagnie Osmosis, qui se passait dans une espèce de non-lieu de carrefour de bretelles d'autoroute, pas très loin des docks, je ne sais pas le nom de ce carrefour, et avec vue à la fois sur un magasin de choses mécaniques et sur Notre-Dame de la Garde. Et en plus, il pleuvait, et transit se passe dans un double camion et raconte, si on peut dire raconte, enfin la trame, c'est le trajet d'un migrant d'Afghanistan jusqu'en Angleterre. Et donc,
jusqu'à Calais, je crois, il s'arrête à Calais.
Peut-être qu'il tente d'aller jusqu'en Angleterre. Et le danseur ne mime pas, mais il danse dans et avec ce camion, dessus, dessous, en images, etc., etc., avec des souvenirs projetés de sa vie passée. Et véritablement, cet endroit-là et cette prestation artistique-là étaient en totale symbiose. Et donc là, ça illustre cette relation possible entre des architectures, des espaces sociaux et des corps dansants et des mouvements de corps. Et à ce moment-là, on ne voit plus. On voit à la fois les deux. Et ensuite, quand on se promène dans la ville, on repère les scènes de la ville que le corps a montrées. Et on y marche peut-être un peu autrement, mais ça serait trop long.
Alors Sylvie Gerbeau, donc on parlait de la pertinence de la danse pour parler du corps dans la ville. Vous, je rappelle donc que vous êtes responsable du 3 bis F et que vous avez invité des danseurs à venir dans cet hôpital psychiatrique Montperrin pour des résidences et pour des créations in situ aussi, je crois.
Oui, certaines, lorsque c'est la fin du travail de création, aboutissent à des représentations. Autrement, c'est des présentations d'étapes qui se passent sur le lieu.
Alors, il y a une pertinence particulière de la danse dans un hôpital psychiatrique. On pense au corps, par exemple. On se dit que là aussi, il y a quelque chose de l'ordre de la pertinence pour des chorégraphes à intervenir.
Il y a un intérêt certain des artistes à venir dans ce lieu-là, ça c'est sûr. Après, s'il faut mettre sur une échelle d'importance, si ça intéresse plus les gens de théâtre que de danse, non. Enfin, j'ai pas mesuré ça. Après, dans la qualité, la perception, l'intérêt des gens hospitalisés et des gens qui sont autour du lieu et qui viennent rencontrer les artistes, c'est pareil. C'est beaucoup lié à la personnalité des artistes.
Voilà, qu'ils soient chorégraphes, metteurs en scène, plasticiens, tout ça, d'accord. Est-ce que vous retenez quand même des moments particuliers de résidence de danseurs, de chorégraphes au 3 Bicef qui...
Oui, on a eu pas mal d'expériences fortes qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre. Par exemple, je pourrais citer Christine Coirot, la danseuse qui marche, et qui est venue faire une des étapes de son périple sur le lieu et qui a eu évidemment ce réflexe d'investir pas strictement nos locaux mais la totalité de la surface de l'hôpital et qui a par la qualité de sa présence dans les allées de l'hôpital induit des rencontres d'une rare qualité, puis elle dormait là, etc. Voilà.
Il faut peut-être rappeler un peu en quoi consiste le travail de cette marcheuse, Christine Coirot.
Ça, peut-être tu peux en parler plus que moi, Sylvie, mais bon, là, sur le lieu, elle est venue avec Julien Bruno. Elle était dans un tracé de traversée de l'Europe avec des étapes, plusieurs étapes. Là, je crois qu'elle venait du Luberon, et ensuite elle est allée chez Ilotopie, ce qui a d'ailleurs induit ensuite pour nous par rapport au retour qu'elle nous a fait de l'intérêt d'être comme ça successivement dans plusieurs lieux, c'est ce qui nous a fait créer Tridance, dont on reparlera je pense tout à l'heure. Voilà. Donc elle a tout de suite après, ben voilà. Donc elle nous a fait retour de l'intérêt que ça avait pour elle en tant que danseuse. Qui se déplace, de se retrouver successivement dans plusieurs lieux extrêmement singuliers et extrêmement différents. Et comment ça lui avait permis, dans ce qu'elle était en train de construire de son projet chorégraphique, une densité qui lui a beaucoup apporté. Donc du coup, ça nous a donné l'idée avec le Citron Jaune d'Ilotopie à Port-Saint-Louis-du-Rhône, et puis on a cherché un autre partenaire, en l'occurrence différent de nous deux. En l'occurrence, c'est le Vélo Théâtre à Apt, qui est un lieu qui est dirigé par une compagnie du même nom, qui fait de la production et de la création de théâtre d'objets. Donc ça n'a rien à voir ni avec nous, ni avec Ilotopie, mais qui fait de la résidence d'artistes, c'est ce qui nous reliait. Donc on a créé un dispositif qu'on a appelé Tridance, de façon très volontariste, parce qu'on n'a pas un rond pour le faire. Mais on continue, ça va être la cinquième année cette année. On fait un appel sur Internet chaque année, un appel à projet pour solliciter une compagnie avec des particularités, c'est-à-dire qui travaille sur la transdisciplinarité ou l'interdisciplinarité, qui est intéressée à chercher de nouveaux modes de rapport, en tout cas d'interroger de nouveaux modes de rapport avec le public. Voilà. Et puis d'être aussi friand de rencontres avec les singularités des lieux et les équipes qui les font fonctionner. Voilà. Et on choisit une compagnie qui vient. Cette année, ce sera la compagnie In Situ, qui est une compagnie de Lyon, qui va venir au printemps chez nous et successivement au Vélo Théâtre et chez Ilotopie.
Alors, on va passer un peu aux interprètes et chorégraphes, Yandy Namour et Agnès Pelletier. Là, on entendait un peu parler, une historienne des arts de la rue, on va se dire ça comme ça, une critique, des opérateurs culturels, vous êtes des praticiens de ces espaces urbains
en tant que...
en tant qu'interprète, des artisans. Ouais. Alors quel sens ça a pour vous d'aller danser dans ces espaces publics ?
Alors je commence peut-être à parler. Moi, je suis autrichienne à la base. Et je suis venue à Marseille. Je ne connaissais pas vraiment l'art de la rue. Ça ne me disait pas grand-chose parce qu'en Autriche, l'art de la rue, ça se tient assez... c'est pas très développé. Il y a quand même des festivals. Mais à Vienne, ou comme ça, l'art de la rue, c'est pas vraiment quelque chose qui se pratique. Il n'y a pas vraiment beaucoup de compagnies qui font ce travail-là. Donc, je suis arrivée à Marseille. J'ai trouvé du travail. J'ai commencé à travailler à Marseille avec Jeanne et Jérémy, donc la compagnie migrateur transatlantique. Et j'ai commencé ce travail sans vraiment savoir ce qui allait m'attendre. Petit à petit, je découvrais ce que c'était d'aller dans la rue. Et pour moi, donc maintenant, je travaille autant en salle qu'en rue. Et je me rends compte à quel point ce travail en rue enrichit vraiment le travail de l'interprète et est riche pour l'interprétation, pour... faire parler de plein de choses.
De quelle façon ça enrichit ?
Bah, ça enrichit dans la proximité des gens. C'est pas évident d'être en rue, surtout avec le corps, de s'inscrire d'une manière non verbale dans l'espace. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Je trouve que c'est pas évident d'être juste, de trouver aussi sa place et d'être aussi entendu ou par les passants, par les gens qui passent en général très vite et qui de temps en temps réagissent aussi difficilement au contact avec des gens qui sont d'une autre manière présents dans l'espace urbain, dans la ville. Mais pour moi, c'est vraiment ce qui est riche pour moi, c'est la proximité aux gens. C'est aussi le challenge d'être toujours obligé d'être très spontané par rapport à ce qui se passe au moment, parce qu'il y a plein d'imprévus et on doit réagir d'une manière très... Enfin, on doit être assez ouverte par rapport à ce qui se passe dehors. Puis on rencontre des tas de gens qui ne sont pas vraiment venus pour voir ce spectacle, mais qui d'un coup se retrouvent là parce que leur chemin passait par là. Et puis, ce travail de l'extérieur, je trouve que ça... Tout à l'heure, vous parliez des cases. Parce que je sens vraiment que d'être interprète, moi, ce qui est stimulant pour moi, c'est d'être autant dedans que dehors. Et l'intérieur me donne peut-être plus de possibilités d'être dans la finesse. La finesse qui à l'extérieur, enfin dans les toutes petits détails, ça se noie dans la rue, sur une grande place. Mais par contre, bien sûr, ce travail de la finesse enrichit aussi l'extérieur, mais l'extérieur, ça, dans la présence, les deux se nourrissent. Et je trouve que une compagnie qui doit choisir si elle est dedans ou dehors, c'est dommage, quoi. C'est très dommage.
Agnès Pelletier, vous, votre parcours, je crois, il est passé de la salle à l'extérieur, c'est ça ? Donc vous avez choisi ?
Oui, je crois. je pense que c'était un moment ce moment précis, c'était la sensation de danser toute seule avec mes sensations et de pas partager la danse, ma danse avec le public que tu ne vois pas en salle. Et c'est vrai que le fait de danser en extérieur, t'as ce lien-là en direct. Ça ne veut pas dire que tu sais pourquoi tu danses, mais, mais au moins, ton regard, il n'est pas absent, il est là, et t'es obligé. Parce que si tu danses avec un vrai regard de danse contemporaine dans la rue, et bien là, on a affaire justement à des réactions qui peuvent être aussi fortement intéressantes. C'est ce qui est enrichissant aussi, c'est le public te fait poser des questions sur la danse. C'est quoi la danse contemporaine ? Ça sert à quoi ? Mais c'est pas de la danse que vous faites ? Formidable d'entendre ça, c'est cruel en même temps, mais et si, c'est une forme de danse, parce que c'est vrai que moi j'ai une entrée qui est en rue, ma manière de, d'interroger la danse passe par une histoire. C'est-à-dire que le premier spectacle qu'on a fait, il n'y a pas tellement longtemps hein, que j'y suis, en 2006, c'était « Je voulais vendre de la danse au kilo ». Et j'aurais très bien pu le faire en salle, hein, mais bon, j'aurais peut-être pas fait fortune. Là, je l'ai fait
alors
sur le marché.
Là, oui.
Et en le faisant sur le marché, je peux vous dire que là, là on a fait des ronds. entre les bancs voilà, du poissonnier et du... Et bon, là, on a... Et je ne parle jamais de danse. C'est-à-dire que là, on vend une méthode de développement physique et mental en boîte. Jamais ça parle de danse. Et au bout d'un moment, on y arrive. D'ailleurs, les 10 premières minutes, c'est un bonimenteur. Et ça parle, et ça parle. Et il parle d'un miraculeux produit. Et si on prend ce produit-là, eh bien, on est transformé. Voilà. Après Bénédicte Pilchard, donc, qu'on a fait voilà, aujourd'hui à Sirène et Midinette, là, c'est à travers un personnage que la danse arrive. Alors, évidemment, c'est une danse à qui j'ai sacrifié des fondamentaux principaux comme le déplacement et le changement de dynamique qui fait quand même la danse. Là, je lui interdis tout ça. Donc, Bénédicte Pilchard, elle traduit les mots, voilà, en y donnant du sens ou du non-sens. La prochaine création qui va s'appeler Ravalement de façade, c'est une brigade chorégraphique municipale. Voilà, sur une zone qui a été un petit peu jugée, un petit peu morose, un petit peu sans vie, eh bien, on est là pour y redonner de la vie par les corps.
Donc, dans ce que vous dites toutes les deux en tant qu'interprète et chorégraphe, c'est que le sens de votre intervention dans les espaces publics, il est plus lié à la relation finalement au spectateur que à l'expérimentation d'un espace, en fait.
Alors, par exemple, bon, moi je suis pas la créatrice des projets dans lesquels je participe, mais la compagnie migratoire transatlantique, dernièrement, elle travaille sur des modules qui s'appellent villes mouvementées. C'est des modules qui sont spécialement conçus pour la ville, donc pas pour la ville. Et c'est souvent en rapport direct avec plutôt l'architecture. C'est plutôt, c'est aussi des installations, quelque chose qui s'ajoute pour enrichir et pour faire voir l'endroit dans lequel on est d'une autre manière. Par exemple, on travaille avec des grands miroirs en plexi qui sont autant transparents que réfléchissants. On est 7 personnes. Et autant qu'on on reflète la ville et les gens qui sont à côté de nous, on peut voir à travers, à des moments, nous qui sommes derrière sont visibles, à d'autres moments, on ne nous voit pas du tout. Donc c'est une installation assez vivante qui transforme l'espace dans lequel on est. Donc c'est pas forcément... Bien sûr, c'est toujours aussi en rapport avec les gens qui sont là, mais c'est aussi beaucoup en rapport avec l'architecture, avec l'endroit qui nous entoure.
Agnès, tu veux dire un mot là-dessus ? Vous voulez dire un mot là-dessus ?
Non, parce que je crois avoir répondu tout à l'heure en parlant du rapport à l'histoire, enfin, au personnage ou à une histoire.
Okay. Alors, c'est vrai que cette question du sens des interventions chorégraphiques dans les espaces publics, si je pose de... pas mal de questions là-dessus, c'est qu'il y a un passage dans le livre de Sylvie Clidière, Extérieur Danse, qui sert de support à cette sirène blabla que vous êtes en train d'écouter sur Radio Grenouille. Il y a un petit passage qui dit que mettre l'accent sur la relation porteuse de sens entre l'objet spectaculaire et son environnement est, sauf projet spécifique, un luxe encore peu cultivé par les chorégraphes. Alors, vous pouvez nous développer un peu ?
C'est-à-dire que les deux exemples que j'ai donnés tout à l'heure, et on pourrait en donner d'autres, sont liés au fait que les chorégraphes et les organisateurs, dans quelle proportion, je ne le sais pas, je ne suis que spectatrice, ont réfléchi à la relation entre la danse et son contexte. Mais on pourrait citer le My System for Ladies sur les marchés de la même façon. Trop souvent, la réalité concrète est d'une part que pour faire véritablement un travail in situ, au sens strict du terme, c'est-à-dire un travail qui porte sur ce que l'environnement dit au chorégraphe et ce que le chorégraphe lui répond, ça demande un temps de résidence. Or, un temps de résidence, ça coûte. Même si les danseurs sont peu payés, même s'ils sont logés de façon rustique, ça coûte. Et donc, beaucoup d'organisateurs hésitent à engager cette forme radicale de la relation à l'environnement, qui est, de mon point de vue de spectatrice, une des formes les plus passionnantes, qu'illustre par exemple Julie Desprairies. Parmi d'autres, mais c'est la plus représentative en ce moment. Par ailleurs, dans le cadre d'une programmation ou d'un festival, là aussi, tout se passe dans l'urgence et dans des contraintes techniques. Et très peu d'organisateurs réfléchissent, comme l'ont fait le Merlan et lieu public, à l'endroit où la danse sera le plus à sa place. Et un certain nombre de chorégraphes fonctionnent un peu à la tournée et ils viennent faire un repérage rapide dans les meilleurs des cas. Et sinon, ils se mettent là où on leur dit de se mettre. Et là, c'est une limite. C'est une limite parce que il y a forcément, qu'on le veuille ou non, et même si certains chorégraphes utilisent un dispositif autonome et c'est leur droit le plus strict et donc peuvent se mettre partout où il y a de la place pour leur dispositif, le lieu en extérieur, et c'est ça, à mon avis, un des objets les plus passionnants, le lieu dialogue, le lieu répond. Je vais prendre un exemple encore. La compagnie Tango Sumo utilise, pour beaucoup de ses spectacles, sauf un, Moyen Plume, un dispositif qui a un peu la forme d'un ring et qui est autonome. Ou bien pour la chorégraphie qu'ils ont faite avec la troupe Vandaval, un dispositif avec des gradins, avec des praticables, tout un jeu. On se dit, bon, du moment qu'il y a une place, les gradins c'est pas mal, on est au moins assis, c'est pas désagréable, c'est un monde autonome. Eh bien, par exemple, à Chalon, c'était sur une place normale. Tout d'un coup, parce qu'il y avait des jeux qui flirtaient avec les traditions espagnoles, tout d'un coup, on perçoit que dans le jardin qui est derrière la place, il y a des ifs, et tout d'un coup, la place devient une place de village du Sud. Chalon-sur-Saône, c'est pas du tout un village du Sud. Donc, là, ça fonctionne bien. En revanche, ça fonctionne bien parce que le lieu a dialogué de lui-même presque. Mais parfois, ça peut détruire complètement un spectacle. Le même Tango Sumo avec Moyen Plume sur le parvis de la cathédrale à Chalon encore devenait une espèce d'exercice gymnastique absolument sans aucun intérêt. Et donc, et certains autres, je préfère ne pas les nommer quand ils ont été trop détruits, le lieu carrément combat le spectacle. Et donc, cette relation-là, il me semble, sans vouloir donner des leçons, parce que je me demande de quel droit, cette relation-là, qu'elle soit voulue par la chorégraphie ou non, elle mérite d'être travaillée ensemble par les chorégraphes et les organisateurs. Ça veut dire s'en donner le temps, c'est tout. Mais moi, je ne suis pas organisateur, c'est facile pour moi de le dire.
Est-ce qu'un organisateur commentait ce que vient de dire? Non, Pierre, je te vois saisir le micro, donc je me dis que tu as envie de dire quelque chose, mais je ne suis pas sûr en même temps.
Si, parce qu'il y a une chose que je voulais dire au début et que j'ai ratée. J'aurais aimé quand même qu'on dédie cette édition à un chorégraphe qui s'appelle Pierre Deloche. Pierre Deloche qui a fait un travail au cours de Pas à Pas il y a 3 ans avec nous, qui est une création civile avec une centaine de participants. Donc les projets participatifs, on pourra parler, mais je dis ça parce que Pierre Deloche est un garçon très sensible. a mis fin à ses jours récemment. Je n'ai pas plus de détails que ça. Je ne suis pas très intime de Pierre. Je suis incapable de savoir pourquoi. Peut-être que Sylvie en sait plus. Toujours est-il que je voulais en profiter à la fois pour le saluer. C'était un travail absolument magnifique. Ça a été pour nous une très belle œuvre. Pas facile. C'était 80-100 personnes sur une marche extrêmement lente, comme une espèce de grand jeu d'échecs sur la plage Jean Jaurès, avec 50 personnes de chaque côté en une demi-heure, sur une création musicale extrêmement belle, jouée par 80 musiciens de l'école de musique. Une traversée de la place, les deux groupes se traversaient et les gens avaient une demi-heure pour faire les 100 mètres en tout qui partageaient d'un côté à l'autre. Donc une espèce de marche lente, un très grand groupe, une très belle œuvre, une création civile. Et voilà, la mort de Pierre Deloche, évidemment, rajoute autant de sensibles. Mais peut-être, tout à l'heure, tu me demandais la chorégraphie, j'ai dit l'art le plus. Puis après, je me suis dit, oui, j'ai oublié de dire un mot, c'est le mot sensible, peut-être l'art le plus sensible. Et peut-être que les chorégraphes sont les êtres les plus sensibles de tous les artistes.
Oui, Sylvie, qui dire, oui.
Tu m'as enlevé l'envie que j'avais de parler de Pierre avant toi. C'était en effet quelqu'un d'une grande sincérité, d'une grande implication. Et il travaillait en particulier à Lyon. Et sur la place des Terreaux, qui est tramée par Buren... les mêmes créations que j'ai vues à Marseille et à Lyon, eh bien, à Lyon, elles étaient encore plus à leur place parce que la géométrie de la place, la trame de la place et son espèce de côté un peu pompeux dans les bâtiments qui l'entourent donnait au travail fait avec des amateurs, y compris parfois des handicapés, etc., etc., donnait à la qualité de partage presque spirituel que leur insufflait Pierre quelque chose de plus poignant que sur la place où je l'ai vu à Marseille.
Cette dimension participative des écritures chorégraphiques pour l'espace public aujourd'hui et même conviviale semble être de plus en plus présente dans le paysage. Alors c'est peut-être Sylvie qui... vous qui avez vu...
Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à Sylvie, à ce que tu disais par rapport à Tango Sumo, parce qu'en fait, c'est des compagnies qui recréent une scène, enfin, ils recréent vraiment un espace scénique, vraiment où on a l'impression qu'on est à nouveau presque dans une salle et on le regarde comme ça parce que la manière comment les gradins sont arrangés t'ordonne un peu une manière de regarder. Donc en fait, c'est vraiment à nouveau le plateau, mais dans la rue, et que. Pour se faciliter les choses, on le construit d'une manière de pouvoir le placer un peu où on veut, quoi. Mais après, voilà, après il y a l'autre chose de s'inscrire vraiment dans un espace sans...
C'est certain que le dispositif scénique reconstruit, ça n'est pas le type de proposition le plus excitant. Mais il a complètement le droit d'exister aussi. Et ce que je voulais dire, c'est que le dispositif scénique reconstruit n'empêche pas qu'il y ait un rapport à l'extérieur. Et c'est là que ça peut se creuser. Je suis bien d'accord. Bon, donc, par rapport à l'affaire de participation...
Voilà, je rappelle, pour faire le lien avec ce qu'on disait aussi avant, c'est cette importance qui semble quand même être prédominante dans l'écriture chorégraphique pour les espaces publics en ce moment, c'est-à-dire la relation au spectateur. Là, il vient d'avoir l'exemple de ces danses civiles... création civile, on sent que la participation, la convivialité de plus en plus, existe de plus en plus dans ces propositions chorégraphiques pour les espaces publics. Donc, est-ce que vous confirmez? Je crois même dans votre livre, vous citez Laurent Goumard qui dit pour justement ces écritures chorégraphiques pour les espaces publics, on n'est plus du côté de l'innovation, de l'invention de nouvelles écritures chorégraphiques, mais plutôt dans le déploiement des présences. Dans le déploiement de présence, je ne sais pas si j'ai bien dit.
Je crois que Laurent Goumard, quand il parle de présence des danseurs. Mais, en effet, cette question de la participation, je ne vais peut-être pas être sympathique à tout le monde, mais tant pis, c'est une espèce de marronnier, enfin, de lieu commun qui fonctionne beaucoup dans la bien-pensance d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut être actif, comme si quand on regarde, on n'était pas actif. Bon, il faut être actif, il faut participer, il faut... on est même en même temps démocrate de surcroît. Bon, je m'en méfie un peu. Je m'en méfie un peu et je dirais que s'il s'agit de faire le zig en réponse à une proposition d'artiste, pourquoi pas, mais ça ne me semble pas d'un ordre très artistique. Bien, j'arrête là. En revanche, quand on inclut des non-professionnels dans un parcours... Il n'y a plus le temps ?
Si, si, il y a le temps, mais on s'approche de la fin.
D'accord. Dans un parcours qui les implique vraiment et où on leur fait faire ce qui sert au projet chorégraphique. Par exemple, pour des chorégraphies de grande dimension, ben, il n'y a pas de quoi avoir 500 danseurs, donc de toute façon, la question est réglée. Mais quand des gens... Comme Deloge, d'une certaine façon, et plus encore, comme par exemple Odile Dubock dans La Pierre et les Songes, font un travail avec, pendant des semaines, avec des gens qui s'engagent à être dans un certain mouvement qui est lui-même, qui signifie quelque chose. Là, c'est passionnant. Mais les faire croire, parce que c'est vrai, qu'on a envie de danser. C'est vrai que les ateliers de danse sont de plus en plus fréquentés. Et c'est vrai que ça désigne quelque chose qui est intéressant pour la danse, qui est que dans un espace qui se virtualise beaucoup, le corps revendique quelque chose de concret, quelque chose de physique. Et donc ça fournit les ateliers de danse. Mais tout de même, tant pis si je fais une autre morale. Un projet artistique ou un cheminement artistique, c'est du travail, du travail, du travail, de l'obstination. Et tout le monde n'est pas danseur. Mais tout le monde peut, sur un projet précis qui nécessite un effet de collectif, effectivement, participer à ce type de projet. Je ne sais pas si j'ai été claire.
Oui, en fait, c'est l'idée de partager une expérience. Parce que classiquement, la danse est perçue dans des espaces séparés, quoi. Il y a l'espace de la scène et l'espace du public, quoi. C'est deux espaces séparés. Là, c'est l'idée, quand on va dans l'espace public, de plus de partager une expérience. Bon. Mais après, ça dépend des... Oui, d'accord. Je vous propose de terminer, puisqu'on s'approche de la fin de cette émission. Le livre « Extérieur danse » signé par Sylvie Clidière et Alix Demorand aux éditions L'Entretemps dans la collection Carnet de rue finit sur le début d'un projet que Lieu Public souhaite mener avec d'autres de collaboration entre danse et art de la rue au niveau d'une euro-région. Pierre Sauvageau, est-ce que vous avez eu vent de ce projet ?
Non, on a commencé, puisque même l'année dernière, pendant Soul is Beautiful, donc il y a eu 5 pièces commandées à 5 chorégraphes, italiens et français. Donc il y a eu Ex Nihilo, il y a eu Antoine Le Ménestrel, Les Arts Bleus, il y a eu compagnie Ubidanza et la compagnie Coiné de Gênes et la compagnie de et Sarah Marasso qui est à Turin. Et donc c'était ce réseau qui avait demandé à chacun des chorégraphes de faire une pièce spéciale pour des marchés. Un marché, là, tout à l'heure, Agnès Pelletier parlait de travailler sur un marché. C'est très, très difficile de danser sur un marché. Et donc, ils avaient chacun fait une pièce de 10 minutes avec des débuts de croisement. Jeannie Jérémy, chorégraphe marseillaise, avait travaillé avec les compagnies de Gênes sur une espèce d'accompagnement à travailler sur l'espace public. Et d'ailleurs, pas plus tard que tout à l'heure, on repart à Turin, puisqu'on a une réunion du réseau, pour voir qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine. Mais c'est un développement assez important de travailler sur la question de la danse à l'espace public dans le cadre de cette Eurorégion.
Merci Pierre d'avoir dit quelques mots là-dessus. Donc on arrive à la fin de cette émission là pour de bon. Donc je remercie Sylvie Clidière, Agnès Pelletier, Sylvie Gerbeau, Yendi Namour et Pierre Sauvageau d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On va se séparer sur le générique. À suivre sur Radio Grenouille, bienvenue au club. Et le mois prochain, le premier mercredi du mois, on se retrouvera pour une nouvelle sirène blabla. Et il sera question de son dans l'espace public, si mes souvenirs sont bons.